la chronique de Serge Tizi, qui est professeur d'histoire au lycée Félix Esclangon. Il nous parle de sa vision, tout simplement, de la crise en Ukraine.
C'est la sidération. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a pris le pas sur tout autre débat. À l'est de notre continent, il n'y a donc rien de nouveau, si je reprends le célèbre livre d'Éric Maria Remarqué, « À l'ouest, rien de nouveau sur la guerre 14-18 ». Oui, à l'est, la Russie de Poutine a envahi une fois de plus l'Ukraine. Une fois de plus, Poutine a envoyé son armée dans un pays frontalier. Poutine n'est pas fou. Mais il n'a aucun contre-pouvoir dans son pays. Et il a une stratégie. Car ce n'est pas la première fois que Poutine remet en question le droit des peuples frontaliers de la Russie à disposer d'eux-mêmes, ainsi que les frontières internationales. La Géorgie, du 7 au 12 août 2008, fut soumise, après un court engagement entre les troupes russes et les troupes géorgiennes. En 2014, de février au 26 mars, la Russie a envahi la Crimée avec des troupes pro-russes non identifiables. La raison invoquée était la révolution Place Maïdan, qui a renversé le dirigeant pro-russe Viktor Yanukovych. Il a été renversé par son refus de ne pas signer un accord d'association économique avec l'UE au profit d'un accord avec la Russie. Cette révolution du peuple a engendré une autre guerre, celle du Donbass depuis avril 2014, soit plus de 8 ans. La France, avec François Hollande, l'Allemagne, avec Angela Merkel, la Russie, avec Vladimir Poutine, et l'Ukraine, avec Petro Porochenko, ont signé par 2 fois des accords de cessez-le-feu, et le second s'appelle Minsk II, sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. En 2020-2021, en plein confinement, a eu lieu la révolution biélorusse contre Alexandre Loukachenko, un ami du président Poutine, qui est président sans contre-pouvoir non plus de la Biélorussie depuis 1994. Que demandaient les révolutionnaires biélorusses? Eh bien, ils demandaient de la démocratie et surtout que Loukachenko quitte le pouvoir, étant donné son degré de corruption. Le 23 mai dernier, le vol Ryanair 4978 entre Athènes et Vilnius en Lituanie a été détourné et obligé de se poser à Minsk, capitale biélorusse, par l'armée de l'air biélorusse pour arrêter un opposant journaliste, Roman Protasevich, suscitant les félicitations russes pour une opération spéciale très réussie. Donc les félicitations de Poutine pour cet acte de piraterie d'État. Nous pouvons ainsi constater l'état de guerre à l'est du continent européen, où intervient directement ou indirectement la Russie. Quels sont donc les buts de Poutine? Quand l'URSS s'est autodissoute, le leitmotiv des peuples ex-soviétiques était de recouvrir leur indépendance perdue lors des conquêtes russes, exemple les Pays-Baltes, ou de rompre avec l'oppresseur communiste, exemple par exemple l'Ukraine. Poutine, lui, veut rétablir la puissance russe sous tous ses aspects et dans 3 domaines géopolitiques. Premièrement, à l'intérieur, toute opposition qui remet en question sa politique est condamnée comme antipatriotique, vendue à l'étranger. La zone proche doit absolument être dominée et servir les intérêts russes. C'est le cas des pays du Caucase, jusqu'à l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi les pays d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, ou européens, comme la Biélorussie, ou encore la Transylvanie, Moldavie, ou encore l'Ukraine. Toute remise en question des autocrates liés à Poutine, en place depuis la fin de l'Union soviétique, est empêchée, voire matée, comme au Kazakhstan en janvier dernier, par les troupes de l'OTSC, c'est-à-dire la forme d'OTAN sous domination russe qui comprend l'Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan aussi, et bientôt, peut-être, l'Iran si sa candidature est acceptée. Que ce soit au sud, au sud-est ou à l'ouest de la Russie, il est hors de question qu'un pays intègre une autre alliance économique ou plus encore militaire. Il est hors de question au peuple de revendiquer une quelconque occidentalisation des valeurs, ni démocratie, ni droits de l'homme, ni occidentalisation des mœurs. L'âme russe ne saurait y résister. Des drapeaux européens à Kiev font autant de boutons à Poutine qu'à Mélenchon, car c'est demander le droit de regarder vers l'Ouest, vers les valeurs démocratiques que nient Moscou et son autocratie poutinienne. Il faut absolument créer des états tampons entre les démocraties et la Russie. Et cela n'a rien à voir, chers auditeurs, avec une dissuasion nucléaire qui se moque des états tampons comme de notre ligne Maginot. La raison est qu'il ne faut pas d'exemple de réussite politique et économique et sociale à la frontière de la Russie pour que le peuple russe ne puisse pas se rendre compte de la façon dont lui-même est mal géré. Le groupe Wagner au Mali ou en Centrafrique et le soutien à des juntes militaires dont les cadres ont été formés à Moscou ne sert qu'à déstabiliser la seule puissance militaire en Europe continentale, j'ai nommé la France. La Russie cherche à redevenir une puissance mondiale en revenant en Afrique, au Venezuela, en Syrie. Mais il manque à cette politique beaucoup de choses pour qu'elle soit véritablement efficace. Et ce qui se passe en ce moment sonne plus comme un chant de cygne que comme une victoire. En effet, Poutine a été déjà vaincu. Pourquoi ? Premièrement, la population russe manifeste sa désapprobation devant cette agression illégitime. Dans toutes les villes, et malgré le FSB, la police et une justice aux ordres, les citoyens russes réprouvent l'invasion de l'Ukraine. Sont-ils minoritaires ou majoritaires ? Je ne saurais le dire aujourd'hui. Mais le fait est que c'est un début très courageux et très prometteur pour l'avenir. Deuxièmement, les Ukrainiens résistent mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Et leur cause est populaire. Pourquoi est-elle populaire ? Parce que leur cause est juste et que tout le monde note le type propagandiste des raisons invoquées par Vladimir Poutine. Est-ce que les Russes sont, est-ce que les Ukrainiens sont des nazis ? Ah ben des nazis qui votent pour un comique juif et pour un parlement démocratique, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ça. Alors que l'Europe était divisée et l'OTAN au bord de l'implosion, l'invasion de l'Ukraine par Poutine a ressoudé tout le monde. Plus Poutine menace, plus l'Europe et l'OTAN entrent en action. Même les pays qui n'en font pas partie, la Suède, la Finlande, fournissent maintenant des armes à l'Ukraine, malgré la menace ultime, c'est-à-dire la nucléaire. Pour Moscou, l'Europe devait être finlandisée et sortir de l'OTAN par tous les moyens. Qu'est-ce que la finlandisation ? C'est le principe qui a concerné la Finlande, mais aussi l'Autriche pendant la guerre froide. Ni OTAN, ni pacte de Varsovie pro-russe. Une neutralisation par l'absence de l'autre puissance des États-Unis du champ européen pour mieux contrôler l'ensemble de l'Europe. Si la finlandisation est impossible, alors Moscou paye ou appuie avec ses médias des partis anti-unité européenne ou anti-OTAN, qu'ils soient à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. La fin justifie les moyens, comme au temps de l'URSS, quand Moscou payait les partis communistes frères de l'Ouest, PCF compris. N'oublions pas que Trump a été soutenu par le Kremlin. L'UE à 27 est cette fois unanime. Pour une fois que ça nous arrive, fêtons ça avec joie. Poutine a réussi à mettre l'UE et la Grande-Bretagne sur la même longueur d'onde. Alors que les États-Unis se détournaient peu à peu de l'Europe pour regarder vers la Chine et les menaces qu'elle fait peser dans l'espace Indo-Pacifique, Poutine a réussi à faire revenir les États-Unis dans le concert des nations européennes. Que les gouvernements soient de gauche ou de droite en Europe, les menaces de Poutine sont considérées comme réelles, réalistes et dangereuses. La politique pan-russe est une crainte pour les pays baltes et autres qui ont, ou la Moldavie ou la Géorgie, qui ont des minorités russes importantes sur leur sol. La politique panslave, orthodoxe, provoque des craintes aussi dans les Balkans, notamment pour la Croatie, la Bosnie, le Kosovo, vis-à-vis de la Serbie. Donc nous assistons malheureusement depuis 5 ans à un réarmement de l'Europe dû aux menaces de Poutine. La conscription est rétablie en Lituanie depuis 2015, en Suède depuis 2017. La Croatie et la Slovénie l'envisagent aussi. L'Allemagne a voté dernièrement le retour à un service militaire obligatoire en cas de crise. Je rappelle à nos chers auditeurs qu'en Italie et chez nous en France, eh bien, la conscription n'est que suspendue et peut-être rétablie. Le 6 juillet 1989, j'avais alors 22 ans. J'ai applaudi et assisté à la visite de Gorbatchev, dirigeant de l'Union soviétique à Strasbourg. Nous étions des milliers à crier « Gorbi, Gorbi, Gorbi ». C'était déjà l'homme de la paix, même si le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Nous sentions tous un air nouveau dans une maison commune que la chute du mur a confirmée. Poutine, depuis 20 ans, joue les matamores, utilise la force brutale dans le verbe, dans l'attitude, dans les actes. C'est le symbole du pouvoir fort, celui qu'affectionne nos politiques et certains de nos concitoyens qui préféreraient avoir un homme fort plutôt qu'un régime avec un président peut-être plus conciliant. Faisons bien attention. Aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, que la Russie quitte l'Ukraine. Il faut expliquer aux Russes aussi que la maison commune européenne est aussi leur maison, et pas seulement pour les riches Russes, mais pour tous les Russes. Que leur sécurité est aussi la nôtre. Pour l'instant, soyons solidaires des Ukrainiens, et aussi des Russes qui sont emprisonnés et arrêtés ces jours-ci, car ils s'opposent à la politique de Poutine. Refusons tous les discours de Moscou et d'ici aussi qui justifient d'une façon ou d'une autre les actes de Poutine. Car en droit international, ces actes sont injustifiables. Comme l'intervention de l'Arabie Saoudite en Yémen, comme l'a été la seconde invasion de l'Irak à George W. Bush. Et je souhaiterais à ce titre rappeler une chose. Nous étions membres de l'OTAN. Nous avions réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Et ceci ne nous a pas empêchés, avec l'Allemagne et la Russie à l'époque, de nous opposer vivement à la politique expéditionnaire américaine, anglo-américaine en Irak. Pour la paix, la seule loi valable est le respect des frontières reconnues par les Nations Unies. Et seule une crise grave ou un appel à l'aide justifie l'emploi de la force, et toujours sous le couvert des Nations Unies. Car l'histoire des années 30 nous apprend que les démocraties et les frontières sont fragiles, que les discussions pour des frontières n'entraînent que la guerre, surtout quand l'un des participants a une vision politique expansionniste, comme Adolf Hitler à Munich. Que la référence à l'histoire et à l'ethnie n'est pas un argument recevable, à moins pour fixer une frontière, à moins qu'un accord des Nations Unies, comme ça a été le cas entre le Soudan musulman au nord et le Soudan chrétien au sud. Si nous touchons aux frontières européennes aujourd'hui en utilisant les arguments poutiniens, alors d'autres dirigeants, en Europe et dans le monde, se donneront le droit de remettre en cause leurs propres frontières. Méfions-nous de ceux qui en usent, de ceux qui usent et abusent de l'histoire en la travestissant dans leurs discours. C'est que souvent ils n'ont pas d'idée de l'avenir et portent ni clairvoyance ni espérance sur leurs problèmes, sur les problèmes du présent et de l'avenir. Je le répète, l'Ukraine a le droit de définir son destin avec qui elle veut, comme tous les autres pays du monde, comme Taïwan, comme le Mali, comme la France, comme la Russie. Les Russes doivent comprendre que nous avons bien d'autres défis à relever avec eux qu'une guerre plus ou moins directe, et aux partisans de la paix sans condition. Je rappelle que nos familles, par le passé, ont payé très cher, il y a à peine 83 ans, la remise en question des frontières par les nazis et les japonais, sans avoir réagi à temps. Salut et fraternité.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. La sagesse ici-bas, c'est le prix.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère.
Come on.